Isaïe, chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur ses épaules, et on lui donne pour nom conseiller admirable, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Pour étendre l'empire et pour donner une paix sans fin au trône de David et à sa royauté, pour l'établir et l'affermir dans le droit et dans la justice, dès maintenant et à toujours, le zèle de Yahvé des armées fera cela. Voilà. Donc cet enfant né, donné, qui est donc promis à Israël. Je vous parlais hier de donc l'incarnation de Jésus-Christ, qui est la réponse de Dieu au mal. Et vous vous souvenez peut-être de l'objection musulmane qui disait que Dieu se fasse si proche, que Dieu se fasse homme, cela ne convient pas à la majesté divine, c'est même un blasphème. Et la réponse que saint Thomas d'Aquin donnait était de dire que la majesté de Dieu n'était pas altérée, n'est pas altérée, parce que Dieu, en se faisant homme, va s'attacher plus profondément, plus fortement les hommes à l'honorer, à penser à lui, à s'y attacher. Ce n'est pas parce qu'on se fait plus proche de quelqu'un qu'on perd le respect ou la majesté. Il y aurait d'ailleurs un sophisme à soutenir le contraire. Ce serait comme dire, plus un homme est proche de moi, moins je lui dois de respect. Oui. Un homme qui est mon père est plus proche que celui qui n'est pas mon père, et pourtant, mon père, je le respecte davantage que celui qui n'est pas mon père. Donc vous voyez, le sophisme était patent. Donc Dieu se fait plus proche en se faisant l'un des nôtres, parfaitement et saintement. Et plus loin encore, si je puis dire, il va se communiquer la vie divine qui est la grâce et qui est le sujet aujourd'hui de cette présente conférence, instruction. Dieu se fait plus proche en nous communiquant sa vie divine, et c'est la grâce. Là encore, il y a beaucoup de passages dans l'Écriture sainte, même dans l'Ancien Testament, qui laissaient entendre que Dieu désirait communiquer sa vie, faire ses délices, comme il dit le psaume, à habiter parmi les hommes. Dieu veut établir un rapport particulier avec nous. C'est l'enseignement des apôtres. Par exemple, mais pas au hasard, saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 5. C'est en lui, Jésus-Christ, qui nous a choisis dès avant, donc Dieu nous a choisis en Jésus-Christ, c'est en lui qui nous a choisis dès avant la création du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant dans son amour prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ selon sa libre volonté. Les phrases de saint Paul sont toujours très longues, alors je m'arrête tout de suite. Versets 13 et 14 également. C'est en lui que vous-même, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est en lui que vous avez cru et que vous avez été marqués du sceau de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui est une part de notre héritage en attendant la pleine rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Bon. C'est très riche, évidemment. Vous aviez l'épître de dimanche dernier, vous avez reçu l'esprit d'adoption qui vous fait, crier Père à Dieu. Donc c'est l'épître du huitième dimanche après la Pentecôte, je ne l'ai pas apporté, vous pouvez vous y reporter. Vous avez également, et toujours l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 18 et suivants. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons accès les uns et les autres auprès du Père, dans un seul et même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des hôtes, ni des hôtes, ni des hôtes de passage, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu, édifiés que vous êtes sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien ordonné s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés pour être par l'Esprit Saint une demeure où Dieu habite. Une demeure où Dieu habite. Lorsque Dieu annonçait sa venue parmi les hommes, j'ai mis mes délices à habiter parmi les hommes, c'était non seulement poser sa tente à Bethléem, à Nazareth, du temps de la vie du Christ, mais c'est aussi pour habiter dans nos âmes et faire, saint Paul le dit bien, une demeure, un temple saint où Dieu habite. Autre lieu qui est très classique, qui est le plus important encore, c'est celui du premier pape, saint Pierre. Donc c'est la deuxième épître de saint Pierre apôtre, chapitre 1, verset 4. C'est tout le fondement de la grâce. Puisque sa divine puissance nous a accordé tous les dons qui regardent la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, et qui par elle nous a mis en possession de si grandes et si précieuses promesses, afin de vous rendre ainsi, c'est là que c'est important, participants de la nature divine, en vous soustrayant à la corruption de la convoitise qui règne dans le monde. Longue phrase, mais ici, c'est participant de la nature divine. Divine consortes naturae, ce sont les paroles que le prêtre prononce lorsqu'il mêle une goutte d'eau dans le calice rempli de vin qu'il va offrir à l'offertoire. Donc, la goutte d'eau symbolise la nature humaine qui est perdue dans la nature divine. Comme c'est le cas avec donc la participation à la nature divine qui est octroyée par la grâce. Ces enseignements des apôtres, donc j'ai cité Paul, Pierre, et avant Jacques, il faut parler de Jean. Saint Jean est le grand apôtre le grand évangéliste qui nous transmet l'enseignement direct de Jésus-Christ concernant cette vérité de foi qui est la communication de la grâce aux hommes. Vous avez donc cela dans l'évangile de saint Jean, chapitre 3. Il s'agit de l'entretien avec Nicodème. Nicodème était un membre important du Sanhédrin, sans doute, et qui, de nuit, n'est-ce pas, venait s'entretenir avec Jésus-Christ, mais sans oser le défendre publiquement. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de Nicodème. Donc l'entretien se passe. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme, quand il est déjà vieux, peut-il naître? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Et puis, verset 16, en effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, déjà, prédication très claire du Christ sur cette vie de la grâce, cette vie de l'Esprit. Ici, c'est le baptême, l'Esprit Saint aussi, qui est présent. Vie pour avoir la vie nouvelle, la vie éternelle, qui n'est pas donnée à la chair, mais qui n'est donnée qu'à l'Esprit. Et puis, surtout, l'entretien de notre Seigneur Jésus-Christ avec la Samaritaine. C'est le chapitre qui suit, le chapitre 4. Jean 4, 10 et 13 à 15. Verset 10, Jésus lui répondit à la Samaritaine qui vient puiser de l'eau, vous connaissez l'épisode. Jésus lui dit, si vous connaissiez le don de Dieu, et qui est celui qui vous dit « Donnez-moi à boire », vous-même lui en auriez fait la demande et il vous aurait donné de l'eau vive. » Donc oui, Jésus-Christ demande à boire à la Samaritaine et il lui dit maintenant « Si vous connaissiez celui qui vous parle, eh bien c'est vous qui me demanderiez de l'eau à boire. » Alors elle ne comprend rien, évidemment. Bon, on la comprend un peu aussi. Je ne comprends pas. Et le Christ explicite la chose, verset donc 13. Quiconque boit de cette eau, de l'eau dont je parle, et non pas de l'eau que la Samaritaine s'apprête à puiser, quiconque boit de cette eau aura encore soif, celle que tu vas puiser. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Voici le commentaire de saint Thomas d'Aquin sur ce passage de cette eau jaillissante qui jaillit en vie éternelle. C'est quand même pas une eau ordinaire. Celui qui boira de l'eau vive, de la grâce donnée par le Sauveur, n'en désirera plus une autre, mais il désirera la recevoir plus abondamment. De plus, tandis que l'eau matérielle descend, coule, et s'écoule, l'eau spirituelle de la grâce s'élève. C'est une eau vive, toujours unie à sa source éminente, et qui jaillit jusqu'à la vie éternelle qu'elle nous fait mériter. Donc c'est une eau qui jaillit jusqu'au ciel. Cette eau vive vient de Dieu, et c'est pourquoi elle peut remonter jusqu'à lui. Le principe de la sanctification, c'est Dieu. C'est Dieu qui sanctifie. C'est pas moi qui me sanctifie. Je me sanctifie, je fais un pèlerinage, c'est Dieu qui sanctifie, c'est pas l'homme. De même, dans le temple de Jérusalem, le dernier jour de la fête des tabernacles, Jésus, debout, dit à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui boit spirituellement, en croyant au Sauveur, celui-là puise à la source d'eau vive, et il peut y puiser non seulement pour lui-même, mais pour les autres à sauver. À plusieurs reprises, nous l'avons déjà noté, Jésus répète, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc, enseignement très important du Christ qui prêche qu'il est le principe de la vie éternelle, qu'il il est l'eau vive, le don gratuit, le don de Dieu. Et ce don de Dieu, c'est, nous dit saint Pierre, la participation à la nature divine, à la vie de Dieu, à la vie éternelle. Bon. Dernier passage de l'Écriture sainte, quasiment le dernier. Celui, toujours parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est saint Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus répond à Judas, mais non pas l'Iscariote. Seigneur, comment se fait-il que vous vouliez vous manifester à nous et non pas au monde ? Jésus répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Et puis, chapitre 15, verset 3. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure uni à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Donc vous voyez, les disciples, ce sont ceux qui sont unis à Dieu, à Jésus, et qui portent du fruit parce qu'ils ont cette sève qui circule dans les sarments qu'ils sont. demeurez en moi et moi en vous. Alors il est temps d'expliquer un peu toutes ces choses, de préciser à l'aide, bien sûr, des auteurs autorisés. Ce don de la grâce, ce don de la vie, c'est donc la grâce, grâce divine, gratia en latin, qui signifie bien cet aspect de don, de gratuité, que Dieu nous donne avec abondance. C'est la grâce divine, la grâce éternelle, la grâce sanctifiante, je vais y venir, qui est le fondement de notre union à Dieu. Alors, il y a 10 ans, il y avait un tableau derrière moi. Maintenant, il n'y a plus de tableau, alors je ne peux pas écrire. Simplement, sachez que pour établir une amitié, une communauté entre des êtres, eh bien, il faut des échanges, des relations. Il faut qu'il existe une communauté. Par exemple, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas communiquer par le langage, raisonner avec un petit chien. Enfin, ou plutôt avec une plante. Parce qu'aujourd'hui, bon, avec une plante. Bon, on peut parler, il paraît qu'il faut parler aux plantes pour qu'elles se portent mieux. Mais bon. Il faut une communauté de nature entre des êtres pour échanger à égalité les mêmes biens, les mêmes dons. Il n'y a rien de commun entre Dieu et l'homme, sauf que Dieu qui a créé l'homme par nature. Dieu nous aime tellement, car le fondement de tout, c'est que Dieu nous aime. Dieu, parce qu'il nous aime, établit un pont, un pontife, Jésus-Christ, il se fait l'un de nous, mais en même temps, il établit une vie commune, une vie qui suppose une communauté de biens à échanger. Cette amitié que Dieu, d'abord, il est toujours premier, que Dieu a pour nous, cette amitié porte un nom, c'est la charité. L'amour de charité qui nous fait réellement enfants de Dieu. Cette amitié divine, cet amour souverain de l'âme pour Dieu, considéré en lui-même, à cause de ses perfections, de sa bonté souveraine, eh bien, cet amour surnaturel naît de la grâce comme la fleur naît de la tige. Et c'est une image qui vous aide à comprendre. S'il n'y a pas de tige, il n'y a pas de sève, il n'y aura jamais de fleur. Eh bien, la charité suppose une communauté établie entre Dieu et nous. Et cette communauté, c'est cette participation à la vie divine. C'est la grâce, c'est la vie, c'est le don gratuit, c'est cette eau vive qui jaillit du sein du Sauveur. Et dit, qui sort de ma poitrine. Et ce sera, bien sûr, le coup de lance hein, au calvaire hein, qui montrera, qui fera jaillir cette eau vive. Cette grâce, cette vie, cette participation de la vie divine qui est le fondement de notre de la charité et de tout ce que les auteurs spirituels appellent l'organisme surnaturel, eh bien cette grâce est une qualité surnaturelle qui est donnée à l'âme. Alors vous pouvez lire Don Marmion, Le Christ vit de l'âme, c'est un des bons livres que vous pouvez sans doute ici emprunter ou peut-être acquérir. Le Christ vit de l'âme, page 18. La grâce est une qualité intérieure, produite en nous par Dieu, inhérente à l'âme, ornant l'âme et la rendant agréable à Dieu. Et la grâce nous rend agréable à Dieu. C'est une qualité intérieure, donc quelque chose qui est ajouté. On dit un homme est bon, un homme est intelligent, un homme est volontaire. La volonté et l'intelligence sont des qualités de la nature humaine, enfin même plus, enfin des facultés attachées à sa nature. Ici, il s'agit d'une qualité intérieure, mais on va le dire, surnaturelle, qui n'est pas due à la nature, qui dépasse infiniment la nature humaine, les capacités de la nature humaine, et cette qualité est comme greffée, pour prendre le jargon botanique, greffée sur une nature qui par elle-même ne peut pas atteindre, bien sûr, la vie divine, la nature divine, qui est infiniment au-dessus d'elle. Donc voyez, qualité intérieure produite en nous par Dieu, c'est Dieu qui sanctifie, C'est Dieu qui gratifie, qui fait couler l'eau de sa grâce sur l'âme, qui l'orne en la rendant agréable à Dieu. Alors cette grâce, elle a coulé la première fois, coulé dans tous les sens du terme, dans notre âme et sur notre front au baptême. Tout comme dans le domaine naturel, la beauté et la force sont des qualités du corps, le génie et la science des qualités de l'esprit, la loyauté et le courage des qualités du cœur. Vous voyez, c'est très bien dit, c'est, d'ailleurs c'est pris de saint Thomas d'Aquin. Vous avez corps, âme, cœur. Le corps, l'âme, le cœur ont des qualités, santé, beauté, force, science, loyauté, courage, etc. On pourrait faire la litanie de toutes les vertus morales pour le cœur et l'esprit, vertus intellectuelles aussi. Et ici, c'est la même chose, mais attachée à l'âme, à l'essence de l'âme, je précise tout de suite. Selon saint Thomas d'Aquin, cette grâce est une similitude participée de la nature de Dieu. Participata similitudo divine naturae. Bon. La grâce nous rend, d'une façon dont le dernier fond nous échappe, participant de la nature de Dieu. C'est saint Pierre. Nous sommes, par la grâce, élevés au-dessus de notre nature. Nous devenons, en quelque sorte, des dieux. Avec une minuscule. Nous ne devenons pas égaux, mais semblables à Dieu. À l'image et à la ressemblance, telle que nous avions été créés. C'est vraiment la restauration de notre nature qui avait perdu cette ressemblance. N'est-il pas écrit dans vos livres sacrés, j'ai dit, voici que vous êtes des dieux. La participation pour nous à cette vie divine se réalise donc par la grâce, en vertu de laquelle notre âme devient capable de connaître Dieu comme Dieu se connaît, d'aimer Dieu comme Dieu s'aime, de jouir de Dieu comme Dieu est rempli de sa propre béatitude et ainsi de vivre de la vie de Dieu lui-même. Donc il y a ici vraiment une analogie l'âme humaine regarde notre essence et les facultés de notre âme, connaître, enfin intelligence, volonté, se greffe par-dessus notre essence. Son tableau, c'est difficile. Vous voyez, vous avez l'essence de l'âme, de l'homme qui est son âme, et par-dessus, enfin, les facultés de l'âme, les facultés, volonté, intelligence, supposent une âme humaine, une âme, l'essence humaine. Bon, et bien de même, la vie divine en nous, les facultés théologales, les dons du Saint-Esprit, la foi, l'espérance et la charité, tout notre agir vertueux, surnaturel, moral, suppose une essence divine. On va dire un germe divin, mais le germe est un mot particulier, condamnable d'ailleurs, enfin, si on confond la nature et la surnature. Ce germe est déposé en nous par la grâce, voyez, qui est donc en fait, je résume les choses, plutôt dans l'ordre entitatif, pour nous permettre d'agir. Pour dire les choses simplement, j'espère, l'agir suit l'être, toujours. C'est un adage de philosophie. L'agire, c'est que tout récit. L'agir suit l'être. Tel être, telle action. Vous avez une nature humaine, vous pouvez agir en humain. Si vous n'aviez pas d'intelligence, si vous n'aviez pas la nature humaine, vous n'auriez pas d'intelligence humaine. Oui. Et bien de même, ou d'agir humain. De même, vous ne pouvez pas agir divinement, car c'est de cela dont il s'agit, sans un être divin. Cet être, cet ordre de l'essence, c'est la grâce. Grâce qui va permettre ensuite d'agir, vertu théologale, don du Saint-Esprit, etc. Bon, avec un schéma, ce serait plus facile, mais je n'ai pas de tableau. Bon. Tel est, reprend donc Don Marmion, tel est l'ineffable mystère de notre adoption divine. Cette vie de Dieu lui-même que nous recevons par la grâce et que nous agissons, enfin que nous mettons en pratique par les vertus théologales. Tel est l'ineffable mystère de notre adoption divine. Mais il y a une profonde différence entre l'adoption divine et l'adoption humaine. Celle-ci n'est qu'extérieure, fictive, établie sans doute par un document légal, mais elle ne pénètre pas la nature de celui qui est adopté. En nous adoptant, ce qui veut dire, c'est que l'enfant adopté ne change pas de nature. Il avait la nature humaine avant comme après. C'est juste une convention, un document, une adoption légale, quoi. En nous adoptant, en nous donnant la grâce, Dieu, au contraire, pénètre le fond de notre nature, sans changer ce qui est essentiel dans l'ordre de cette nature. On garde une nature humaine, elle n'est pas supprimée. Il l'élève intérieurement par cette grâce, au point que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Cet acte d'adoption a tant d'efficacité que nous devenons réellement, par la grâce, participants de la nature divine. Et comme la participation à la vie divine constitue notre sainteté, cette grâce est appelée sanctifiante. Vous voyez, participation qui constitue notre sainteté. Nous sommes établis dans la sainteté par la grâce divine qui habite en nous. Et donc tout le problème, consiste à ne pas profaner cette sainteté qui habite en nous, qui est la vie divine en nous, qui est donc, on va le dire bientôt, la vie trinitaire, hein, dans l'âme des justes, dans l'âme des baptisés, qui bien sûr vivent en état de grâce. Cette grâce sanctifiante, j'insiste beaucoup, c'est une vie nouvelle infusée, c'est le terme technique, infusée, donnée gratuitement par Dieu à l'âme. Ce n'est pas, comme diront les protestants, une simple imputation extérieure des mérites de Jésus-Christ. Vous voyez, on dit il y a les mérites de Jésus-Christ, et comme un manteau, vous restez pourri en vous-même, mauvais, corrompu, mais comme un voile pudique, le manteau de Noé, on vous revêt des mérites de Jésus-Christ. Ce n'est pas que cela, c'est beaucoup plus profond. C'est une vie nouvelle, une vie divine inaugurée dans la nature humaine. Dès maintenant. Et si cette vie divine est appelée à s'épanouir dans le ciel, dans la vision béatifique, dès maintenant, elle pénètre notre âme pour en modifier profondément l'être et l'agir. Alors vous imaginez bien sûr le prix, la valeur d'une telle merveille. Voici ce que dit saint Thomas d'Aquin. J'utilise le père Garrigou-Lagrange dans Les trois âges de la vie intérieure, tome 1. Je crois qu'il est également disponible sur les étalages. En réalité, la vie de la grâce est dès ici-bas le germe de la gloire, dit toute la tradition, explique le père Grégoire Lagrange. Gratia est semen gloriae. Saint Thomas d'Aquin aime aussi à dire la grâce n'est rien d'autre qu'un certain commencement de la gloire en nous. Incoatio gloriae in nobis. Un commencement de la gloire future, de la gloire éternelle en nous, commencer une incoation de la gloire en nous. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin aime à dire que le bien de la grâce d'un seul est plus grand que le bien de toute la nature humaine, de tout l'univers de la nature. Le moindre degré de grâce sanctifiante contenu dans l'âme d'un petit enfant après son baptême est quelque chose de plus précieux que le bien naturel de tout l'univers. Quam bonum naturae totus universi. Y compris toutes les natures angéliques prises ensemble. Vous voyez, une seule once, un seul gramme de grâce surnaturelle, mais la grâce ne se pèse pas, a plus de poids que tout le bien créé naturel, que tout le bien naturel de tout l'univers, que toutes les natures angéliques naturelles. Car le moindre degré de grâce sanctifiante est d'un ordre immensément supérieur, de l'ordre de la vie intime de Dieu, supérieur à tous les miracles et à tous les signes extérieurs de la révélation divine. c'est la même vie surnaturelle, la même grâce sanctifiante qui est dans le juste ici-bas et dans les saints du ciel. C'est aussi la même charité infuse, avec bien sûr quelques petites différences, mais fondamentalement, essentiellement, c'est la même grâce, la même vie divine, la même vie intime commencée dès ici-bas dans dans le secret de l'âme du baptisé. La valeur de cette grâce, donc, elle est développée aussi par saint Thomas d'Aquin lui-même en personne dans Traité de la grâce. C'est la question 112, article 1 de la première partie. Le don de la grâce surpasse la puissance de toute nature créée, puisque la grâce est une participation à la nature divine, laquelle surpasse toute autre nature. C'est pourquoi aucune créature ne saurait être cause de la grâce. Dieu seul peut déifier des êtres en leur communiquant par une participation de similitude quelque chose de sa divine nature. De même que seul le feu peut mettre un corps en état de combustion. Vous voyez, belle analogie. On brûle d'amour pour Dieu, et bien c'est justement parce que Dieu y a mis le feu. Et seul Dieu peut le faire. Alors, une objection était d'ailleurs de dire, non, il n'y a pas que Dieu qui puisse causer la grâce, puisque Jésus-Christ la cause, et que Jésus-Christ, il est aussi homme. Donc, un homme peut causer la grâce, la preuve, Jésus-Christ la cause. Et la réponse, évidemment, c'est de dire que l'humanité de Jésus-Christ est instrument de sa divinité. L'humanité de Jésus-Christ, c'est pas l'humanité, ni le journal, ni la nature humaine déifiée. C'est pas la nature humaine en elle-même. C'est la nature humaine en tant qu'elle est justement déifiée, en tant qu'elle est unie essentiellement ici, substantiellement, dans la même personne, dans la même hypostase, au Verbe de Dieu, au Fils de Dieu incarné. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin, sera plus clair que ce que je dis. L'humanité du Christ est, selon l'expression de saint Jean de Massène, une sorte d'instrument de sa divinité. Or, ce n'est pas par son propre pouvoir que l'instrument réalise l'action de l'agent principal, qui est Dieu. C'est par la vertu de cet agent. Vous voyez, si mon crayon bouge et peut écrire, c'est pas le crayon qui écrit, c'est moi qui écris à travers le crayon. Ce n'est donc pas par sa propre puissance que l'humanité du Christ produit la grâce, mais par la vertu même de la divinité à laquelle elle est jointe et qui donne aux œuvres de l'humanité du Christ leur valeur de salut. Ce sont les actes humano-divins, comme on dit, de Jésus-Christ. Bon. Donc, valeur et prix qu'on ne saurait mépriser de la grâce, puisque c'est la vie même de Dieu répandue dans nos cœurs. Et cette grâce est absolument nécessaire pour avoir la vie éternelle. Voici ce que dit saint Thomas d'Aquin. C'est l'article 5 de la question 109 de la prima pars. Bon. La question qu'il se pose, est-ce que sans la grâce, l'homme peut mériter la vie éternelle? Est-ce qu'on peut être sauvé sans la grâce? Saint Thomas d'Aquin prend une objection, donne une objection qui est intéressante, qui est de dire, le Christ dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Ce qui semble indiquer que l'entrée dans la vie éternelle dépend de la volonté de l'homme. Bon, j'observe les commandements, j'entrerai au ciel. Je ne les observe pas, j'entrerai pas. Donc c'est bien à mon pouvoir. Donc j'ai pas besoin de la grâce pour rentrer dans le ciel. Puisque observer les commandements dépend de la volonté de l'homme. Et que nous pouvons y parvenir par nous-mêmes. Dit l'objection. Bon. Notre objection dit, La vie éternelle est une récompense. C'est la récompense. Mais il faut la mériter. Cette récompense, elle est donnée selon les œuvres. Or, l'homme est maître de ses œuvres. Il est libre. Donc, il a par lui-même le pouvoir de parvenir à la vie éternelle. Vous voyez, l'objection, la vie éternelle, c'est la récompense. Avant de l'avoir, je vais la mériter par mes propres moyens. Troisième objection, je prends tout parce que c'est très actuel aussi. La vie éternelle est la fin dernière de la vie humaine. Vous êtes d'accord? Or, n'importe quel être de la nature peut, par ses moyens naturels, atteindre sa fin. Dieu crée une nature finalisée. Les pommiers sont faits pour porter des pommes, pas des poires. Bon, c'est évident. Et de même, puisque l'homme a créé Dieu, puisque Dieu a créé l'homme et que l'homme a une fin, qui est la vie éternelle, eh bien Dieu ne peut pas l'avoir créé sans lui permettre, par lui-même, d'atteindre sa fin. Objection qui semble dire, l'homme a par lui-même tous les moyens nécessaires pour se sauver. L'objection dit bien ça. La vie éternelle est la fin dernière de la vie humaine. Or, n'importe quel être de la nature peut, par ses propres moyens naturels, atteindre sa fin. À plus forte raison, l'homme, qui est d'une nature supérieure, peut-il parvenir à la vie éternelle par ses moyens naturels sans aucune grâce, sans aucun secours de Dieu. Voilà. Et donc ça, c'est une objection très, très actuelle, y compris, surtout chez les modernistes, le père de Lubac en particulier, même si ce n'est pas si simple. Réponse de saint Thomas d'Aquin, qui cite saint Paul. La grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce qui est écrit pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui nous conduit à la vie éternelle par sa miséricorde. On y revient toujours, par sa miséricorde. Alors lisons rapidement la réponse de saint Thomas d'Aquin, qui est la réponse catholique, de bon sens et en même temps profonde, pour nous faire comprendre que la grâce reste gratuite. Elle est jamais comme ça à disposition de notre nature, quand je veux, comme je veux, si je veux. Pour que des actes nous mènent à une fin, il faut qu'ils soient proportionnés à cette fin. Par ailleurs, aucun acte ne dépasse la mesure du principe qui le produit. Vous voyez, le principe, c'est ce qui est au commencement. Donc, c'est évident. Aussi, dans la nature, ne voyons-nous jamais un être qui puisse, par sa propre opération, engendrer un effet supérieur à sa puissance. Vous voyez, on dit parfois un peu familièrement, les chiens font pas des chats. Les hommes n'enfantent pas des anges. L'ange est d'une nature supérieure aux hommes. Bon. Même si je ne doute pas que vos petits chéris soient des anges, les petits anges. Aussi, dans la nature, ne voyons-nous jamais un être qui puisse, par sa propre opération, engendrer un effet supérieur à sa puissance, à sa puissance d'action. Je prends un autre exemple. Vous ne pouvez pas voler. Vous n'avez pas d'ailes. Je ne parle pas des avions. Mais je parle de par nature. Mais avoir des ailes, voler comme un petit oiseau, n'est pas un dû de la nature humaine. Il n'aboutit jamais, et donc ce n'est pas un mal de ne pas pouvoir voler comme un oiseau. Il n'aboutit jamais dans ses opérations qu'à un résultat proportionné à son pouvoir. Vous pouvez marcher, mais vous ne pouvez pas voler, car vous avez des jambes et non pas des ailes, car vous n'êtes pas des anges. Or, la vie éternelle est une fin qui dépasse la nature humaine et sans proportion avec elle. C'est ça. Il n'y a pas de proportion entre cette fin surnaturelle qui est gratuitement donnée par Dieu aux hommes et nos capacités naturelles. C'est pourquoi l'homme, avec ses seuls moyens naturels, ne peut pas produire des œuvres méritoires qui soient proportionnées à la vie éternelle. On ne peut, c'est, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, on comprend. Vous voyez? Et c'est ce que dit saint Paul. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je m'immole par le feu, si je n'ai pas la charité, et il entend ici toute la grâce sanctifiante que suppose la charité, cela ne me sert de rien. pour la vie éternelle. Oui. Jamais on ne peut dire j'ai droit. Alors aujourd'hui on a droit à beaucoup de choses, aux 35 heures, etc. Et j'ai droit à la vie éternelle. C'est toujours faux, ça. De puissance absolue. Pour qu'il puisse le faire, il lui faut nécessairement une force supérieure, qui est la force de la grâce. La force de la grâce. Et c'est ce qui explique que sans la grâce, l'homme ne puisse mériter la vie éternelle. Bien qu'il soit capable d'accomplir des opérations qui aboutissent à quelque bien du même ordre que l'homme, toute action naturelle est proportionnée à une fin naturelle, ça, il le concède bien volontiers. Bien qu'il soit capable d'accomplir des opérations qui aboutissent à quelque bien du même ordre que l'homme, par exemple, labourer la terre, boire, manger, cultiver l'amitié et autre chose du même genre. Ça, l'homme peut le faire. C'est ce que dit saint Augustin. Passons. Donc vous voyez, il y a des choses proportionnées à notre nature, et il y a des choses qui sont parfaitement disproportionnées. Et tel est le cas de la vie éternelle, de la vie de la grâce. Oui. Si vous ne venez pas à moi, sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous êtes comme la vigne, n'est-ce pas? Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et coupé de moi, on coupe, et ben, ça ne sert plus à rien, c'est stérile. Stérile pour la vie éternelle. Voilà. Donc, grande vérité que rappelle saint Thomas d'Aquin. Si vous êtes un peu philosophe, on peut prendre une comparaison par les quatre causes. Je le fais quand même parce que je trouve, c'est très clair. Évidemment, sans tableau, c'est bon. J'essaie d'expliquer ça clairement. On va prendre un ordre dans l'ordre physique, un mouvement. Puis qu'après tout, nous sommes ici pèlerins sur cette terre. Nous allons au ciel, enfin nous espérons aller au ciel. Le ciel, c'est la fin et le point de départ, c'est la terre. Donc il y a un mouvement. S'il y a un mouvement, c'est qu'il y a un moteur, un mouvement, un mobile et un terme. Donc je répète quelque chose plus clairement. Prenons une voiture qui va de Paris à Lyon. La voiture a un moteur. Le moteur imprime un mouvement au mobile, qui est la carcasse, la carrosserie, dans laquelle je suis installé pour me rendre à Lyon. Ou à Flavigny, c'est un peu simple. Donc, le moteur esquive, imprime un mouvement à un mobile qui est mu. Vous avez tous fait des expériences en physique, quand on était en seconde, on faisait ça. On lançait un petit mobile qui bougeait dans un champ magnétique. Bref. Et le but, c'était de conduire, de voir un peu le mouvement du mobile, mu par le moteur, et de voir comment il arrivait à son terme. Donc, quatre termes, hein, moteur, mouvement, mobile, terme, fin, but. Alors, si vous êtes... Donc là, j'ai parlé pour les garagistes. Hein, bon. Maintenant, pour les philosophes, le moteur, c'est l'agent, la cause efficiente. Le mouvement imprimé au mobile, c'est la forme. Le mobile, c'est la matière, ce sur quoi est imprimée une forme. Et la fin, le but, le terme, c'est la cause finale. Voilà. Donc on a bien les quatre causes et on a bien en même temps... Enfin, ça tombe bien. Eh bien, dans la vie surnaturelle, dans la vie de la grâce, le moteur, c'est qui ? C'est Dieu. Le mouvement imprimé à une matière, le mouvement, c'est qui ? C'est quoi ? C'est la grâce surnaturelle. C'est divin, ce n'est pas humain. Et le terme, la fin, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est encore une fois divin. Donc, moteur, mouvement, terme, cause agente, cause formelle, cause finale, enfin, bon, ne sont pas humains. Dépassent, ne sont pas proportionnés à notre nature. La seule chose proportionnée à nous, c'est la matière, c'est le mobile. On est la carcasse, si vous voulez. Et ce mobile, donc, s'il n'est pas mu par le moteur, s'il ne reçoit pas ce mouvement du moteur, il ne pourra pas atteindre sa fin. Vous voyez? Alors, c'est très important parce que on comprend là une objection qui est de dire, je pêche, je fais un péché mortel, je perds cette mouvance de l'Esprit Saint, de la vie surnaturelle, ce moteur qui m'entraîne par son mouvement vers la fin. Bon, bah, je suis désolé. Bon, mais pourquoi est-ce que par un autre acte, j'ai fait un péché mortel, j'ai calomnié gravement quelqu'un, j'ai perdu la grâce. Bon, bah, je répare. Donc, je vais poser un acte. Au contraire, je vais louer quelqu'un pour ses actions. Pourquoi est-ce que par un acte de moi, je peux me soustraire à ce mouvement et le péché mortel me fait perdre la grâce? Et pourquoi est-ce que par un autre acte, je ne pourrais pas retrouver de moi-même, comme ça, ce mouvement divin qui me conduit à ma fin? Et la réponse, elle est dans ce que je viens d'expliquer, c'est que le moteur, le mouvement, le terme sont divins, c'est pas humain. Et si je sors de cette mouvance, de cet organisme surnaturel, si vous voulez, je ne peux pas m'y remettre de moi-même, car ce n'est pas proportionné à ma nature. Ni le mouvement, ni le moteur, ni le terme. Attention donc à ne pas ravaler, si vous voulez, la grâce, la vie surnaturelle, justement, au niveau purement humain. Ou à confondre la surnature et la nature. Ce sont deux ordres bien différents. Et que la nature soit élevée à l'ordre surnaturel, ne fait pas que l'ordre surnaturel devient quelque chose, un bien de consommation naturelle. Vous voyez? Ça reste parfaitement gratuit. Et vous comprenez maintenant pourquoi quelqu'un, après un péché mortel, ne peut pas de lui-même retrouver la grâce. Parce que c'est pas proportionné à sa nature. J'espère que c'est clair, parce que aujourd'hui, ce sont des choses qui sont pas claires, quoi, justement. On agit parfois en pélagien, c'est-à-dire cette erreur de Pélage pour qui l'homme de lui-même se disposait à la grâce, se disposait à la vie éternelle, sans le secours de Dieu. Alors répondons d'ailleurs aux objections, parce que je vois que le temps qui passe, malheureusement, qui mettront bien en lumière ce que je viens d'expliquer. La première objection disait, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Ben, observer les commandements, ça dépend de ma volonté. Donc, ma volonté mérite la vie éternelle sans la grâce. Réponse, oui, l'homme, par sa volonté, peut accomplir des œuvres qui méritent la vie éternelle. Mais à condition, comme le remarque saint Augustin, que cette volonté de l'homme y soit disposée par la grâce de Dieu. Que je me dispose à la grâce, je sais pas, moi, j'ai perdu la grâce, mais je vais continuer à aller à la messe, voyez. Ça reste une, c'est bien. Vous avez perdu la charité, vous n'avez pas perdu la foi, forcément, heureusement. Eh bien, ça reste surnaturel, mais c'est encore Dieu qui vous meut, puisque c'est Dieu qui vous donne la foi. Bon, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Prenons un autre exemple que donne saint Thomas d'Aquin. La grâce est comme le soleil. C'est beau le soleil. Il illumine partout. Une âme qui se ferme à la grâce, c'est une âme qui ferme les volets. Alors, bien sûr, l'obscurité se fait dans la pièce, on ne voit plus rien, et on n'est plus sous la mouvance du soleil, de la lumière du soleil. On est fermé à la grâce. Mais pour ouvrir les volets, je ne peux pas ouvrir les volets sans la grâce. Puisque le soleil est infiniment supérieur à la lumière, est infiniment supérieur à mon pouvoir. Donc, c'est le mystère de la grâce et de la liberté, hein, que j'essaye de délicatement poser. La deuxième objection, la vie éternelle est la récompense. Ben, en attendant la récompense, ben, j'ai pas besoin de la grâce qui est proportionnelle à la vie éternelle. Réponse, pareil, sans doute. La vie éternelle est accordée comme une rétribution aux bonnes œuvres, une récompense donc. Mais ces bonnes œuvres, à leur tour, doivent être attribuées à la grâce de Dieu, puisque, ainsi que nous l'avons fait voir, pour accomplir les commandements de la loi, comme il convient, de manière à en tirer du mérite, la grâce est nécessaire. Si je me dispose, si j'observe les commandements, c'est une grâce de Dieu. Car de moi-même, je ne peux pas m'y tendre, car c'est disproportionné à ma nature. Il faut souvent se le dire, je pense, pour ne pas s'habituer au sacrement, à la grâce, à croire. Ce n'est pas naturel. Nous ne sommes pas dans l'état de notre création, disait Pascal. Troisième objection qui disait Dieu ne peut pas nous avoir créés pour une fin et ne pas nous donner les moyens pour cette fin. Réponse. Cette objection porterait, donc elle serait vraie, s'il s'agissait de la fin à laquelle tend d'elle-même la nature de l'homme, si nous avons une fin naturelle. Mais la nature humaine, précisément parce qu'elle est plus noble, peut être amenée à poursuivre une fin qui lui est supérieure, avec le secours de la grâce. Tandis que les natures inférieures ne peuvent en aucune façon y parvenir. Voyez. C'est ainsi qu'un homme, grâce au traitement du médecin, peut recouvrer la santé. Et cet homme est dans une situation meilleure que celui qui n'y peut parvenir, quoi qu'on fasse. Donc l'homme est dans une situation meilleure que d'autres animaux qui n'ont qu'une fin naturelle. Mais cette santé de l'âme, n'est pas au pouvoir de l'homme. C'est Dieu qui la donne. Alors ça a sonné, il me faut donc terminer. J'avais d'autres schémas, tant pis. Par juste cette conclusion donnée par le Don Marmion encore, dans ce très beau livre, hein, Le Christ vie de l'âme, page 268 et suivante. La grâce sanctifiante doit être la source où s'alimente notre activité humaine. Sans elle, nous ne pouvons produire aucun acte surnaturel qui ait quelque proportion méritoire avec la béatitude de la vie éternelle. Dieu fonde d'abord en nous un état, l'état de grâce. On retrouve bien ici l'ordre essentiel, l'ordre ontologique, l'essai. C'est ce qui importe tout d'abord, l'état de grâce. Un être n'accomplit des actions qu'en raison de sa nature. Nous n'accomplissons des actions humaines que si nous possédons d'abord la nature humaine. De même, nous ne posons des actes de la vie surnaturelle que si nous possédons d'abord, par la grâce, comme une nouvelle nature, nova creatura. Et c'est cet état surnaturel de la grâce donné par Jésus-Christ. Il est un exemple que donne Jésus-Christ qui est la vigne. Notre divin sauveur quitte le cénacle. Il traverse une colline couverte de vignobles. Cette vue inspire au Christ Jésus son dernier discours. C'est avant d'aller à Gethsémani et de souffrir la passion. « Vous voyez ces vignes, dit-il à ses apôtres. Eh bien, la vraie vigne, c'est moi. Et vous, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. De même que le sarment ne peut porter de fruits s'il ne reste uni au tronc, de même en est-il de vous si vous ne demeurez unis à moi par la grâce. » Don Marmion commente, « La grâce est la sève qui monte de la racine dans les branches. Ce n'est pas la racine ni le tronc qui porte des fruits, c'est la branche. Mais la branche unie par le tronc à la racine, et tirant de la racine la sève nourricière. Sinon la branche ne porte plus rien. Brisez la branche, séparez-la du tronc, ne recevant plus la sève, elle se dessèche et devient du bois mort, incapable de produire le moindre fruit. » De même en est-il de l'âme qui ne possède pas la grâce. Elle n'est pas unie au Christ. Elle ne tire pas de lui cette sève de la grâce surnaturelle qui la rendrait surnaturellement vivante et féconde. Ne l'oubliez pas. Le Christ seul est la source de la vie surnaturelle. Toute notre activité, toute notre existence n'a de valeur pour la vie éternelle que pour autant que nous sommes unis au Christ par la grâce. Sinon, on aura beau s'agiter, se dépenser, accomplir les actions les plus éclatantes aux yeux des hommes, devant Dieu, dans toute cette activité et sans fécondité surnaturelle, sans mérite pour la vie éternelle. Alors nous passons à la chapelle pour méditer un peu ces choses.